Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Good morning business, le débrief de la matinale.
Allez, 8h37, on débrief avec Carole Juge, Lewellyn de June, Pascal Sévy de chez Odo, Emmanuel Le Chypre et Anthony Morel. On va débriefer cette tribune de 350 personnalités du monde scientifique et économique qui crient au loup.
Ah oui.
À l'IA.
Au loup. C'est le moins qu'on puisse
à
dire.
À l'IA qui pourrait créer l'extinction de l'humanité, Anthony Morel.
Ah, il faut la lire, hein, cette tribune. De toute façon, j'ai fait une phrase, alors c'est pas
oui,
compliqué.
C'est pas long.
Je vais vous la lire. Atténuer le risque d'extinction par l'intelligence artificielle devrait être une priorité mondiale à côté d'autres risques sociétaux comme les pandémies et la guerre nucléaire. Voilà ce que disent ces signataires. Et c'est ce qui donne aussi la portée, parce que c'est des signataires qui sont un peu de haut rang, quoi. Sam Altman, le fondateur de ChatGPT, des patrons d'Emis Azabis, le patron d'OpenAI, la filiale d'intelligence artificielle de Google. Enfin, des gens qui sont quand même très implantés, des pontes de l'intelligence artificielle. Et ce qu'ils nous disent très concrètement, c'est qu'on a une menace existentielle en réalité à cause de l'IA. Alors ils disent pas exactement comment, ils restent très vagues sur le pourquoi et le comment, mais en gros ce qu'on comprend, c'est que leur crainte ce serait qu'une IA de nouvelle génération supra-humaine voit le jour, dont l'intelligence serait supérieure à la nôtre, et qu'à un moment ou à un autre, là, on serait dans l'inconnu total. Ouais, c'est ça, décide bah, peut-être d'exterminer l'humanité, on n'en sait rien. Mais là, on est sur du fantasme total. C'est-à-dire qu'on parle d'un truc qui est complètement, complètement hypothétique.
Sur lequel il n'y a pas de consensus, en
fait. Il n'y a absolument pas de consensus scientifique sur le sujet. Et d'ailleurs, il y a 350 signataires, mais ça veut dire qu'il y a encore beaucoup plus de chercheurs qui n'ont pas signé cette tribune, auquel on n'a peut-être pas demandé non plus. On va en citer un, c'est Yann Lequin, le patron français de l'IA chez Meta, hein, qu'on connaît ici, qui est vraiment une pointure également, et qui dit tout ça, c'est du n'importe quoi. Je vais le citer son tweet. Une IA surhumaine est très loin de figurer dans la liste des menaces existentielles. Il dit, déjà, qu'on crée une intelligence artificielle qui soit aussi intelligente qu'un chien. Après, on verra pour les scénarios à la Terminator.
Pascal Sévy, vous avez peur ou vous n'avez pas peur ?
Non, j'ai pas peur, comme je l'ai vite mentionné tout à l'heure, parce qu'il y a tellement de progrès que ça peut apporter. Toutes les révolutions technologiques ou industrielles ont quand même aussi eu leur lot de création d'emplois. Il y a une étude intéressante qui était sortie de Goldman Sachs qui disait que l'intelligence artificielle, c'est de la création de valeur de 7% de PIB en plus chaque année. Mmh. Alors oui, il y a de la destruction d'emplois, mais il y a des nouveaux emplois qui vont se créer.
Mais chez vous, les traders, par exemple, ça va servir à quoi demain ?
On aura de nouveaux outils pour nous permettre de prendre des décisions. Pour moi, c'est plus une aide à la décision, finalement. Après, moi, j'ai envie de dire, apportons une réponse humaine à l'intelligence artificielle. La régulation me semble totalement indispensable. Après, il faut que tout le monde se mette d'accord, ce qui ne va pas être simple. Pour une fois, l'Union européenne a peut-être été un petit peu en avance, puisque depuis avril 2021, ils sont en train de travailler sur un acte, ce qu'ils appellent le IA Act, plus dur à dire en anglais, pour essayer de réguler tout ça, en respectant notamment les normes européennes, comme dans les grands mouvements de foule, comment on va identifier les gens, le respect des données, etc. Donc, ça doit être régulé impérativement, mais essayons d'en tirer le meilleur pour quelque chose qui va révolutionner nos vies dans beaucoup de domaines.
Emmanuel, Carole.
Bah, d'abord, une pétition, son succès tient à sa longueur et à son côté flou ou pas. Là, quand vous avez... Oui, c'est ça. Plus le texte d'une pétition est long, moins de gens la signent en général. Et puis, plus c'est détaillé, moins de gens la signent aussi. Donc là, effectivement, c'est normal. Après, moi, je pense que ce qu'il faut préserver par-dessus tout... Alors, la régulation, ça dépend ce qu'on entend par régulation. Moi, je pense qu'au contraire, si on veut écarter le risque, finalement, d'une intelligence artificielle qui nous entraîne dans un mode de pensée unique, c'est absolument la priorité d'entretenir la concurrence et au contraire pas la régulation. Donc moi je pense que plus on aura d'intelligence artificielle différente, plus ce sera sain, et ça c'est important. Et puis si c'était l'intelligence artificielle qui rendait les gens bêtes, ça se saurait. Vous voyez, on n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour crétiniser l'humanité. Donc moi je pense qu'à la limite c'est plutôt un outil qui peut permettre de compenser cette déculturation plutôt que le contraire.
Carole Gilles-Lévelin.
Moi, je pense qu'on crie avant d'avoir mal. Oui, il y a un risque, mais il y a un risque dans tout, donc il faut arrêter. J'ai l'impression que cette discussion, la tribune, on aurait pu l'écrire dans un mauvais film de science-fiction des années 90, quoi. Faut aller un peu au-delà de ça. Ça va apporter plein de choses positives. En effet, on va pouvoir se dire, des gens vont devoir renouveler leur métier, leur façon d'envisager les choses. Il y a un truc que ChatGPT ne sait pas faire, que l'intelligence artificielle, pour l'instant, ne sait pas faire, c'est la création pure. Vous lui demandez d'écrire un scénario pour écrire
il crée des pubs.
Je suis pas d'accord. Vous lui demandez d'écrire un scénario pour écrire un film qui a une palme d'or à Cannes, il sait pas faire. Il sait vous
aider. C'est pour ça que les scénaristes d'Hollywood font grève en ce moment.
Je ne suis pas. Non, non, ils font pas grève pour ça.
Si, entre autres. Ça fait partie des revendications.
Ils font grève parce que pour écrire des conneries qui passent à la télé pour remplir le cerveau des gens, comme tu disais, crétiniser les gens, là, oui, ChatGPT sait faire parce que c'est extrêmement charterisé. Pour écrire un prix Goncourt, pour écrire une palme d'or, l'intelligence artificielle ne sait pas faire parce que ça va chercher la puissance, la profondeur des sentiments humains, la profondeur de l'art même.
Peut-être qu'il va pas faire des films d'auteur tout de suite, mais pour la grande majorité de l'industrie cinématographique,
que personne n'ira voir.
Pour le prochain Marvel, je pense qu'il n'y a pas de souci. Il peut faire le scénario qui, en général, tient sur un timbre-poste.
Il y a des exemples d'ailleurs de scénarios incroyables.
Mais bien sûr.
Dans la pub, Carole.
Mais je suis d'accord, mais là, on parle. Là, vous me dites, est-ce qu'il y a un risque? Il y a un risque que ça transfère une partie de l'industrie de la même manière que pour les journalistes. Ils disent, oui, mais alors, ChatGPT va être capable d'écrire des articles à ma place. Mais ouais, mais sauf que, est-ce que, à la base, c'est pas plus intéressant d'avoir du journaliste d'investigation, des gens qui vont sur le terrain, des choses réfléchies, analytiques, circonstanciées, avec des prises de position, plutôt que d'avoir des trucs qui font 200 mots et que, en effet, un stagiaire.
Non, c'est pas 200 mots. Moi, j'ai eu une conversation tout à l'heure avec ChatGPT, justement, sur cette idée d'exterminer l'humanité. Ses réponses étaient incroyables. Pascal Sévy.
Moi, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Je pense que ça peut être un outil. De nouveau, peut-être pour les scénaristes, une base de travail. Il faut qu'on soit intelligent. On utilise ça pour gagner du temps. Ça compile un maximum de données. C'est ça qui est intéressant. Après, à nous de les analyser, le cerveau humain, pour en faire quelque chose de bien. C'est pour ça que je pense qu'il faut réguler. Et juste pour répondre à Emmanuel sur la régulation, je pense que ça peut même aider à mieux comprendre les fake news. Parce que typiquement, dans l'acte européen, l'idée, c'est par exemple de dire que si une image a été créée artificiellement, on doit impérativement le dire. Et ça, ça peut faire du bien quand même pour lutter contre la crétinisation. Notamment.
Juste dans la pub, justement. On respecte quand les filles elles sont retouchées maintenant. Obligation de dire image retouchée.
Sur les réseaux sociaux.
Pas sur les réseaux sociaux maintenant, c'est obligatoire. Il y a un moment, il y a des réglementations, les gens les appliquent.
Le problème, c'est que ces réglementations, elles sont à géographie variable et que vous savez, qui n'est pas signataire de ces tribunes? C'est Baidu, c'est Tencent, c'est Alibaba qui, je pense, s'en moquent, mais alors éperdument qu'on essaye de réguler l'intelligence artificielle de quelque manière que ce soit et qui continueront, eux, à innover alors que nous, on régule à tout cran.
En tout cas, une réponse universelle.
Ouais, en tout cas, Pascal Sévy, vous allez pouvoir réagir aussi au sujet suivant, parce qu'on va parler du fait que cette IA, elle fait exploser la bourse, en tout cas certaines valeurs, comme Nvidia, on l'a vu hier, qui rentre dans le club des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Alors bon, on peut en sortir du club, attention. D'ailleurs, Antoine Larigauderie, grosse pression sur Nvidia désormais.
Oui, parce que quand on vaut quasiment 1000 milliards de dollars, qu'on est pricé 40 fois le bénéfice brut escompté cette année, qu'on a un PE de 230, c'est totalement fou, c'est 10 fois plus que le Nasdaq, qu'on a mis que 500 jours pour passer de 500 à 1000 milliards de dollars, un tiers de ce qu'il a fallu à Apple pour atteindre le même objectif, il faut délivrer. Nvidia rejoint donc Google, Microsoft, Apple, Saudi Aramco et Amazon, les indétrônables, mais on a connu des sorties retentissantes de ce petit club très Select, Tesla et Facebook, devenus Meta, et coïncidence, deux entreprises qui ont connu une véritable bulle spéculative dans leur modèle industriel même, chacune dans leur genre. Donc la principale inquiétude, c'est de savoir s'il n'y en a pas une dans celui d'Nvidia, qui s'appellerait surestimation des perspectives de l'IA générative. Mais Nvidia est une entreprise, encore une fois, qui a tellement su embrasser, souvent avec d'heureux hasards, des vagues technologiques comme l'informatique haute puissance, le gaming, la tech automobile embarquée, le minage de crypto et maintenant l'IA, avec à chaque fois des produits qui se retrouve au cœur des transformations et l'intelligence système toujours comme liant que le groupe garde tout son potentiel. Wall Street garde un œil aussi sur la concurrence. Bon, Intel et AMD, les géants généralistes semblent totalement largués à ce niveau. C'est pas le cas de Broadcom, le spécialiste des puces intelligentes pourrait bien prendre le même chemin. Il sera encore long, sa valorisation tourne autour des 300 milliards pour le moment, mais comme pour Nvidia, on peut devenir un super géant macroéconomique très très rapidement.
Bon, Pascal Sévy, quand on a des chiffres pareils qui s'enchaînent, évidemment la question, c'est de savoir si c'est une bulle.
Alors, concernant Nvidia en particulier, pour nous, la valorisation est largement justifiée, la performance est largement justifiée. Pourquoi ? Parce qu'il y a un quasi-monopole, en fait, d'Nvidia aujourd'hui au sein de l'intelligence artificielle, et on pense qu'elle va capter 80% de la valeur de cet énorme mouvement qu'on est en train de vivre.
Donc, elle était complètement sous-valorisée il y a encore quelques jours.
On peut juste rappeler ce que fait Nvidia.
Oui, les puces, effectivement, qui sont utilisées dans les serveurs, qui sont les cerveaux de l'IA, en fait.
C'est des semi-conducteurs, c'est du hardware, c'est du logiciel. Donc, en fait, cette approche intégrée leur donne cette position quasi monopolistique. Évidemment, la performance boursière récente est surtout liée aux annonces qui ont été faites par le fondateur sur les perspectives. Et paradoxalement, ça c'est juste une petite technique boursière. En fait, la cherté de l'action a diminué le jour où ces résultats incroyables ont été annoncés. Pourquoi ? Parce que la cherté de l'action se mesure par le ratio cours sur bénéfice. Donc si les bénéfices explosent, évidemment, ça rend l'action un peu moins chère. Depuis, il y a eu un tel mouvement en bourse que, évidemment, on a vu les valorisations actuelles, évidemment, sont extrêmement effrayantes. Mais on en revient à un débat que j'ai souvent eu d'ailleurs avec Marc Fiorentino. Est-ce que le PI est la bonne mesure pour des valeurs qui sont dans une telle tendance et quasi monopolistique ? Donc moi, j'ai envie de dire qu'il y a des vraies raisons qui expliquent pourquoi cette action bondit autant en bourse. Maintenant, si on parle d'un point de vue purement patrimonial, il y a des moments pour l'acheter. C'est peut-être pas forcément tout de suite le bon moment. Il va y avoir des accidents de marché aussi qui sont liés à un contexte plus général. Et puis, c'est des valeurs qu'on garde sur le long terme. C'est un peu Apple il y a très longtemps, Microsoft il y a très longtemps.
Anthony ?
C'est intéressant, c'est un peu le GAFA caché finalement.
Mais oui, il va falloir rajouter encore une lettre. Rien pendant
on va enlever Facebook. Hein.
On va enlever Facebook. Donc,
Ganam.
Voilà, les Ganam, pourquoi pas. Et c'est intéressant, ouais, d'ailleurs, son PDG qui est sorti du bois et qui a fait une conférence, là, c'était au Computex, le grand salon de l'informatique de Taipei cette semaine, et qu'on a suivi quasiment comme une keynote d'Apple. C'est-à-dire que cette entreprise qui fait des trucs ultra pointus, etc., maintenant on la suit parce que l'IA est devenue tellement hype, tellement tendance, qu'on a envie de voir ce que ça va donner. Il a fait une démonstration notamment extrêmement spectaculaire sur les jeux vidéo du futur qui vont intégrer de l'intelligence artificielle avec les puces Nvidia, où par exemple on pourra avoir des dialogues entre le joueur et les personnages du jeu qui se génèrent automatiquement avec de l'IA. Enfin voilà, ça on n'aurait pas regardé ça il y a encore quelques mois ou quelques années, mais là voilà, Nvidia c'est devenu la nouvelle entreprise tech à la mode.
Carole ?
Moi je me fie toujours un peu des effets de hype. Il y a un an on était sur ce plateau, on parlait des NFT, on parlait du Web3, c'était incroyable. Sorare venait de lever presque 700 millions, valorisé plus de 3 milliards. Pourquoi pas ? Alors, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui a un cours quand même beaucoup plus long, qui existe depuis plus longtemps et qui, en effet, amène des choses très différentes. Mais il suffit, je vais être très, très bête, certes, la Chine ne régulera peut-être pas, mais si les États-Unis, si l'Europe se mettent à faire des régulations extrêmement dures, et on l'a vu, hein, en crypto, la crypto, la blockchain, c'est des choses qui ont été quand même régulées parfois assez durement et qui mettent un petit cran d'arrêt parfois sur certaines avancées technologiques. Donc, on n'est pas à l'abri d'une régulation qui, d'un seul coup, remettrait un petit peu tout le monde sur un pied d'égalité. On va voir comment ça sort. Mais il faut toujours se méfier de la hype, quoi. C'est un coup de poker. Il y a des gens qui ont gagné, tant mieux pour eux. Et puis voilà, faut laisser passer la vague.
Pour moi, c'est pas de la hype là pour le coup, parce que c'est structurel. Une vraie entreprise structurelle qui justement est présente
sur toute la chaîne. La crypto aussi, c'est des vraies entreprises, hein. C'est
oui,
pas
mais
juste
là, elle est vraiment présente sur toute la chaîne de valeur. Il y a du hardware, il y a du software.
En blockchain aussi, hein.
Mais moi, je suis ça monte, ça ah, mais l'IA, convaincue le truc, c'est que c'est pas là, c'est pas de la tendance.
Ouais, parce que l'IA, pour le coup, c'est un truc qui va s'inviter dans tous les pans de notre vie, quoi qu'on en pense. C'est-à-dire que ça va changer la façon dont on travaille, la façon dont on se soigne, la façon dont on se déplace.
Ça dépendra de la régulation.
Ça ne dépendra pas de la régulation. Ça va tout transformer. C'est déjà en train de transformer la santé. Il y a des systèmes de radiologie qui utilisent de l'intelligence artificielle. On a des systèmes de pilotage automatique dans les voitures qui ne cessent de se développer. C'est déjà une réalité aujourd'hui, en fait. C'est pas pour dans 20 ans. C'est la réalité déjà.
Alors, Emmanuel.
Non, vous voulez changer de sujet.
Non, je veux vous entendre.
Non, parce que ce qui est toujours déroutant quand on se dit mais comment une si petite entreprise peut parce que finalement c'est pas très gros.
Surtout que c'est une faiblesse, hein.
Oui.
Ils conçoivent les éléments, ils les fabriquent pas.
Et en fait, moi, ce qui me fascine, c'est ce nouveau monde dans lequel on est entré.
Ça dégoûte, Carole. Quand j'ai dit faiblesse, 1000 milliards, ça la dégoûte.
Si vous voulez, on a connu plein de grandes phases dans l'économie. Il y avait le moment où il y avait peu de gens qui travaillaient pour peu de gens. C'était la peinture flamande. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient pour peu de gens. C'était l'économie château de Versailles. Après, il y a eu le taylorisme au XXe siècle. C'était beaucoup de gens qui travaillaient pour beaucoup de gens. Le fordisme. Et puis là, vous avez maintenant très peu de gens qui travaillent pour la planète entière. C'est-à-dire que même 10 à 20 personnes dans 50 mètres carrés peuvent générer un business qui va impacter la vie de la Terre entière. Ouais. Et donc générer des chiffres d'affaires absolument considérables.
Regardez Doctolib, Picmado, c'était 2-3 personnes.
Ce qui pose une autre question, d'ailleurs, qui est la vraie question du ruissellement. C'est-à-dire que quand vous aviez beaucoup de gens qui généraient beaucoup de richesses à partir de l'activité de beaucoup de gens, mais là, vous avez une concentration, finalement, de la valeur ajoutée qui est préoccupante aussi.
La question du ruissellement aussi, avec ce nouveau pan entier de l'économie française, les batteries, il y a toute une structuration autour des Hauts-de-France. On était tout à l'heure avec Yann Vincent, c'est le patron d'ACC qui a célébré hier son ouverture en grande pompe. Il était avec nous, vous allez voir, il s'installe dans les Hauts-de-France, certes, mais enfin l'IRA américain, ça lui parle aussi.
Effectivement, s'y installer industriellement compte tenu des mesures IRA, devient particulièrement intéressant. Nous regardons cette opportunité pour produire pour la consommation américaine, pas dans une perspective où nous réexporterions vers l'Europe.
Aïe, aïe, aïe. Est-ce que Joe Biden, finalement, aura raison de nos velléités de réindustrialisation, Pascal Sévy?
Joker.
Non, mais c'est complexe. C'est un sujet qui est super complexe. Aujourd'hui, il y a vraiment, je pense, un mouvement quand même de démondialisation. Ça, je pense que c'est clair et net.
Régionalisation, en fait, hein, quelque part.
Oui, régionalisation qui s'accompagne aussi, forcément, du coup, avec une réindustrialisation. Ça coûte très cher de mettre ça en place. Et là, l'éternelle question, c'est toujours, d'abord, il y a une forte concurrence. Déjà, ne serait-ce que le coût de l'énergie sur les batteries électriques. D'où viennent les matières premières qu'on utilise, notamment le lithium. Donc, c'est quand même très, très compliqué d'être compétitif. Et de deux, comment on finance tout ça dans un pays et pas que la France, qui est
Pascal, le vrai sujet, c'est pas tellement la réindustrialisation, c'est la souveraineté. C'est-à-dire, est-ce qu'on est maître de notre destin si on produit nos batteries en France? La réponse est malheureusement non.
Parce qu'on aura des matières premières qui viennent d'ailleurs.
Oui, et puis il y a des technologies encore qui sont dominées par.
Les puces dans les batteries électriques, elles sont encore chinoises.
Ouais.
Ou alors, il faut travailler pas seulement sur la production de batteries, mais sur la recherche et développement de batteries de future génération, par exemple des batteries au sodium, ou pour le coût, là, on pourrait être souverain sans aucun problème.
Ouais, bon, on verra
toujours le coût.
C'est ça.
Avant de se quitter, quelques informations importantes sur la statistique française qui sont tombées. C'est pour vous, Emmanuel. L'inflation qui chute à 5,1% en mai sur un an, elle était de 5,9% le mois dernier.
Il est content là, il est pas grincheux.
C'est fini.
C'était exactement ce qu'on avait.
En plus, on vous écoute pas.
Alors attendez, si je viens 3 fois par semaine dans votre émission pour que vous me disiez que vous êtes surpris,
non,
moi, je préfère arrêter tout de suite.
Mais
si
c'est
vous
une bonne nouvelle. Ça.
Je reviens plus, c'est pas la peine. Vous m'écoutez pas.
C'est bien. Vous avez vu l'Espagne, ils sont à 3-2.
Alors vous voulez que je vous fasse. J'ai pas vu le détail, mais je peux vous dire que les prix alimentaires sont en train de ralentir assez fortement, que c'est assez constant dans les services, que sur les biens industriels, ça ralentit aussi un peu légèrement.
Et la conso qui recule aussi.
Ouais, la consommation des ménages, moins 1%.
Ouais.
Ah ouais.
C'est pas une bonne nouvelle, ça.
Ah non, ça, c'est pas une bonne nouvelle.
C'est pas une bonne nouvelle pour la croissance, même si elle se maintient à 0,2, mais moins 1% en consommation de ménage. Mais
nous sommes au pic.
Ah, au pic de quoi? De la crise?
Non, au pic de l'inflation. On est en train de redescendre. Ça y est, maintenant, ça va redescendre lentement jusqu'à la fin de l'année.
On a passé la matinée à demander, vous avez peur de l'intelligence artificielle ou pas? Mais on va changer. Est-ce que c'est le pic de l'inflation ou pas, Pascal?
Désolé, hein, mais pour moi, il est déjà passé depuis un petit moment.
Oui. Non, mais au détail, il est pas vraiment passé.
Non, mais le pic est passé. Les banques centrales, je pense, sont à la fin quasiment de leur action. On pense qu'il va y avoir encore une dernière hausse de la BCE d'un quart de point avant une longue pause. La désinflation est en route. Ça prend encore un petit peu de temps, mais pour moi, on en est sorti.
Bon, est-ce qu'on est au pic de la crise? Est-ce que les moins 0,2, c'est un plancher? Est-ce qu'on va rebondir en termes de croissance économique?
Ça va prendre un petit peu de temps. En tout cas, je ne pense pas que ça va s'aggraver. Les craintes de récession, elles sont a priori derrière nous, grâce à plein de facteurs. On peut remercier la Chine quand même, qui est revenue sur le devant de la scène, qui a permis de rebooster un peu la demande. Les carnets de commandes qui étaient pleins post-Covid aussi.
Et le taux de marge des entreprises qui continue de monter. Vous avez vu 32,3 au T1.
Bah, si vous avez beaucoup d'inflation, c'est que les entreprises passent les prix... passer hausse de prix margin assez
facile. J'ai l'impression de vivre dans un monde parallèle ce matin. Quoi. L'intelligence artificielle va tous nous tuer, les marges des entreprises augmentent, l'inflation c'est derrière nous. Les marges augmentent, mais les marges de qui enfin?
De l'INSEE, donc l'entreprise.
Oui, d'accord. Les marges dans 100% des boîtes qu'on connaît et avec qui on travaille n'augmentent pas. Et puis les gens, on ne peut pas me dire l'inflation c'est bon, c'est derrière nous. Les gens, ils continuent de galérer tous les mois pour remplir leur caddie, pour payer leurs courses.
Mais ça baisse le
croix. Ben non, vraiment non. Je ne sais pas sur quelle planète on vit ce matin, mais non, les gens, quand ils vont faire leurs courses, ils ne se disent pas ça m'a coûté moins cher cette semaine. Quoi. Donc, certes, il y a des facteurs. Oui, mais je sais bien. Mais sauf que moi, je suis aussi là pour remettre l'église au milieu du village et dire il y a la théorie économique et puis à la fin, il y a ce que les gens vivent au quotidien. Et là, tout de suite maintenant, je ne serais pas à l'aise dans le fait de dire oui, c'est bon, l'inflation, c'est derrière. Non, je suis d'accord avec vous, ça ne va pas être pire. Mais là, tout de suite maintenant, on n'est pas encore sorti de la phase difficile pour les gens.